On en est où de la vérité? Aujourd'hui, c'est plus l'ère du soupçon, hein, c'est l'ère de la contrefaçon, au point que la notion même de vérité finit par être totalement altérée. Entre les fausses infos, ces fake news, vous savez, montées de toutes pièces pour décrédibiliser, les parodies qui mentent volontiers sans se douter qu'on puisse prendre ce qu'elles racontent pour des faits avérés, ou les complots, les canulars, les conspirations, on ne sait plus sur quel pied danser. Dans cette ère de la contrefaçon, vous avez remarqué, vous le savez, désormais on ne parle plus de vérité mais de post-vérité. Et moi je pense à un tout petit livre publié aux éditions Mille et Une Nuits qui s'appelle Le droit de mentir, et qui retrace dans le texte la controverse qui a opposé à la fin du XVIIIe siècle Emmanuel Kant à Benjamin Constant. Texte fascinant quand on les relit aujourd'hui, parce qu'il pose les termes et les enjeux d'un débat qu'on aurait tort de croire d'aujourd'hui. À Constant, qui envisage la possibilité de mensonges nécessaires pour faire société, Kant répond que la véracité est une règle morale qu'on ne saurait bafouer. Parce que, dit-il, si tout le monde mentait, le mensonge se détruirait de lui-même puisque personne ne croirait plus personne. C'est exactement ça, l'ère post-vérité, un cauchemar de philosophe en train de se réaliser.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que dit mon invité d'aujourd'hui de la vérité ou de la post-vérité? Après tout, en tant que romancier, il serait juste de le considérer comme un menteur invétéré, tout simplement. Lui qui signe cette rentrée, le grand retour de son plus célèbre personnage de fiction, Benjamin Malocène, 18 ans après Au fruit de la passion. Le premier tome d'une nouvelle série intitulée Le cas Malocène est sorti hier, et devinez quel est son titre? Ils m'ont menti. Bonjour Daniel Pénac.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Post-vérité, c'est un mot qui est aussi entré dans votre vocabulaire?
Il vient d'y entrer. Vous venez de m'en parler pour la première fois et j'ai constaté que Trump était donc un élu de la post-vérité.
Tout à fait.
J'ai compris assez vite. Et quant au conflit entre Constant et Kant sur la vérité, ça, je vais me précipiter pour le lire. Alors, c'est où? C'est chez Minuit?
C'est au Mille et Une Nuits.
Mille et Une
Nuits.
Un
tout petit livre que je vous conseille et que je conseille à tous les auditeurs de France Inter. C'est absolument fascinant de le lire aujourd'hui, de le relire aujourd'hui. Comment vous expliquez-vous qu'on fasse aussi peu de cas de l'exactitude de l'information, notamment sur ce que vous appelez dans le cas Malocène les réseaux sociaux, tout attaché et en un mot?
Parce qu'il s'adresse à la fleur des nerfs. On n'agit pas, on réagit, et on réagit immédiatement. Vous savez, c'est de ces gens qui vous disent dans le moment où ils sont le plus en colère, je dis ce que je pense. Et en réalité, c'est précisément le moment où ils ne pensent pas. Une émotion va directement à la parole, sans transiter par la réflexion. Et les réseaux sociaux, c'est ça, en grande partie. Il y a bien entendu aussi des gens qui les utilisent pour dire des choses intéressantes. Mais sinon, c'est réactif, c'est nerveux.
Et la question du vrai et du faux ne se pose pas.
Au niveau des nerfs, la question du vrai et du faux ne se pose pas.
De quel œil est-ce que vous les regardez, vous, ces réseaux sociaux, honnêtement?
Je les ai considérés d'un œil un peu romanesque, puisqu'ils jouent un petit rôle dans le Malocène. À titre personnel, je ne les pratique pas. Je ne tweete pas, je ne...
Et vous êtes plutôt menteur, je me suis posé la question, vous, Daniel Pénac, en tant que personne dans la vie.
Quand j'étais gosse et que j'étais donc un très mauvais élève et adolescent, je n'étais pas menteur, j'étais le mensonge incarné. Je passais mon temps à donner des explications à la con sur les devoirs que je n'avais pas fait, les leçons que je n'avais pas apprises. Je pouvais prétendre que le métro s'était retourné. Et bien entendu, personne ne me croyait.
Votre pire mensonge, c'était quoi, vous vous souvenez?
Mais ça devait être quelque chose, c'est pas le métro s'est retourné, ou c'est pas non plus maman est morte, comme dans Truffaut, mais c'était quelque chose dans ce genre. C'était du genre.
Et oui. En tant qu'écrivain, vous dites toujours la vérité?
Alors, là c'est assez complexe. Dans le cas Malocène, par exemple, vous avez la confrontation entre un écrivain surnommé Alceste, qui est un écrivain de vérité vraie.
Eh oui.
Son principe d'écriture, c'est la vérité absolue. Face à Malocène, et Malocène baigne en permanence dans quantité de mensonges, dont certains sont faits pour l'épargner. Toute sa famille lui ment. mais pour l'épargner. Parce qu'on l'aime beaucoup, on ne veut pas qu'il ait d'emmerdement. Il a déjà été tellement emmerdé dans sa jeunesse. Avec... Donc du coup, on ne veut plus lui casser les pieds. Donc on l'épargne. Et l'épargnant, on lui ment à tour de bras. Lui mentant à tour de bras, il finit par se trouver dans une panade atroce. Confronté à des événements dont on l'accuse et avec lesquels il n'a rigoureusement rien à voir. C'est ça, l'effet du mensonge.
N'empêche, moi, ça m'a fasciné, hein, cette idée d'un auteur de vérité vraie. Ça veut dire quoi? C'est quoi un auteur de vérité vraie, Daniel Pennac?
Pour aller vite, vous avez aujourd'hui, depuis maintenant un certain temps, un courant littéraire qui s'appelle l'autofiction. Ah. Où on... Un grand nombre d'auteurs règlent des comptes avec leurs plus proches, et au nom précisément de la vérité vraie. Et certains d'entre eux sont absolument dogmatiques. Et moi, le dogme m'amuse, m'a toujours amusé. Dès que vous êtes dogmatique, dès que vous revêtez la casaque de votre conviction, vous devenez vous-même un personnage littéraire.
Est-ce que ça veut dire que la vérité, elle peut être dangereuse aussi? Parce que c'est ça que vous racontez quand même, l'histoire de cet écrivain de vérité vraie qui est menacé de mort par sa famille parce qu'il en a dit trop.
Bien entendu, la propagation de la vérité à l'intérieur d'une famille est infiniment plus dangereuse souvent que celle du mensonge.
Alors il faut mentir.
Si vous dites aux gens, si vous les placez face à ce qu'ils sont vraiment, alors qu'ils tiennent tellement à leur image, vous pouvez vous faire zigouiller. Faites attention. D'ailleurs, je signale aux auditeurs que 80% des crimes de sang se passent en famille. En d'autres termes, si vous voulez être en sécurité, descendez dans le métro. Et se passe en famille à cause, vraisemblablement, des vérités.
À moins qu'ils soient retournés.
Qui sont dévoilés.
Quelle mission, quel devoir est-ce que vous lui voyez à la littérature, si ce n'est pas celui de la vérité?
Oh, écoutez, c'est celui d'une compagnie, d'un être ontologiquement seul. Ça, vraiment, je crois que c'est ça. Après, cette compagnie, on en fait ce qu'on veut. Elle est édifiante ou pas, ou distrayante, ou tout ce que vous voulez. Mais c'est tout de même une compagnie face à notre... C'est une compagnie vis-à-vis de notre solitude ontologique et du destin qui nous est promis par le Père Ubu lui-même, c'est-à-dire le grand trou noir d'où ce qu'on reviendra jamais.
Bah écoutez, je vais vous dire un truc, nous on a une compagne. Dans cette émission, vous la connaissez évidemment puisque vous êtes déjà venu à ce micro. Cette compagne, c'est la culture et son actualité éclairante, salutaire et bouleversante même parfois. Tiens, que se passe-t-il aujourd'hui, mercredi 4 janvier? Beyoncé donnera le la à Coachella, le festival le plus huppé de la pop a levé le voile hier sur le programme de son édition 2017. Mi-avril, tandis que la France votera, le désert californien s'enflammera au son de Queen Bee, Beyoncé donc, de Kendrick Lamar ou de Radiohead notamment. Côté français, on attend de la qualité puisque Justice, Breakbot ou Brodinski seront de la partie. Surprise, le groupe de rap PNL est aussi invité à pousser de la punchline. Ouais, 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 ouverture de la billetterie ce soir à 19h.
De l'art.
De l'art.
J'adore.
À Paris, les musées sont battus par les flots mais ne sombrent pas. D'après un communiqué de Paris Musée, la fréquentation des 14 établissements gérés par la ville est restée stable par rapport à l'année dernière, malgré la menace terroriste. En chiffres, c'est près de 3 millions de visiteurs qui sont venus déambuler au Petit Palais, dans les catacombes ou au musée d'art moderne. Star de la saison, les rétrospectives d'Albert Marquet et Bernard Buffet ou l'expo Oscar Wilde, on adore.
L'histoire de Mein Kampf commence en 1923, un sinistre manifeste politique. Hitler y expose sa vision raciste du monde et les idées ultranationalistes qui nourrissent sa pensée.
Un succès qui fait flipper depuis sa réédition en janvier dernier. La nouvelle édition commentée de Mein Kampf se vend comme des petits pains. Le manifeste original d'Hitler a sorti de 3500 notes historiques explicatives. D'abord imprimé à 4000 exemplaires, en est à sa sixième réédition, soit près de 85 000 ouvrages écoulés. D'après un institut d'études allemand, les acheteurs sont principalement des lecteurs intéressés par l'histoire et par la politique et des professionnels de l'enseignement. Apprendre des erreurs du passé, voilà une résolution pour cette année. « mercredi, le post-vérité, ça se vérifie au ciné. Car sur grand écran, aujourd'hui, on dompte les Nocturnal Animals du stylé Tom Ford, couvert d'argent à la Mostra de Venise. On a rendez-vous quelques minutes après minuit avec le catalan Juan Antonio Bayona qui signe un conte fantastique et poignant. Et sinon, direction le parc, la fresque adolescente et poétique de Damien Manivelle qui vaut le coup. Manivelle qui vaut le coup, vous l'avez ? Daniel Pennac, invité de Boomerang ce matin, qu'est-ce qui a bien pu piquer votre curiosité dans ce panorama de l'actualité culturelle? Est-ce que c'est plutôt Coachella, la musique, Beyoncé et les Français, les musées parisiens, Mein Kampf peut-être, ou alors le cinéma tout simplement?
Mein Kampf, évidemment, ça fait a priori un choc. Mais ce n'est pas étonnant, le livre fondateur.
Vous êtes favorable à sa réédition?
D'un état d'esprit absolument ravageur, qui n'avait, je crois d'ailleurs, à l'époque pas été mis à l'index du Vatican. Ce serait à vérifier, ça. Je me suis laissé dire ça et ça m'a intéressé. C'est inutile de cacher les textes existants. Ils existent, ils sont faits pour être édités. Donc ils éditent et qu'ils circulent. Ensuite, à chacun d'en faire ce qu'il en veut. Mais ça m'étonne pas tellement, en réalité. Le succès relatif, parce que c'est malgré tout, c'est pas un raz-de-marée non plus. dans ces périodes de rétrécissement, de nationalisme, on a quand même les Américains ont quand même élu le Joker de Batman.
Assez de post-vérité, Daniel Pennac. Il y en a un qui fait un raz-de-marée en librairie, vous savez qui c'est? C'est votre monsieur Malocène. Les libraires l'ont vu revenir sur le devant des vitrines près de 18 ans après Au fruit de la passion, émotion. Pour vos lecteurs, certainement, pour les libraires, c'est sûr, mais pour vous, émotion ou pas émotion?
Ben, je viens de passer deux ans, un peu plus de trois ans presque avec lui. J'étais content de les retrouver.
Ouais.
C'est un peu comme si on retrouvait sa bande. Enfin, c'est la famille de Malocène.
Mais
je voulais surtout voir comment les enfants avaient grandi.
Ouais.
Il y a 17 ans, quoi. Maracuja a 17 ans. Elle était née dans Au fruit de la passion. Et Verdun a 29 ans, qui était née dans la Fée Carabine. Elle est devenue juge d'instruction. Et Maracuja est devenue, bref, ses enfants sont, je ne vais pas vous dire ce qu'ils sont devenus.
Mais il était où, surtout? Il était où, ce Malocène, ce personnage de papier, chef de tribu, bouc émissaire professionnel, comme vous l'appelez, pendant tout ce temps?
Mais il m'a fichu la paix pour que je puisse faire autre chose, d'autres projets d'écriture.
Mais vous saviez qu'il allait revenir sur le
journal
de la scène?
Non, j'en ai eu l'appétit il y a 3 ou 4 ans. D'abord, j'ai eu l'appétit de cette écriture-là. C'est-à-dire, c'est comme si on retrouve, j'ai déjà utilisé l'image, mais c'est vrai, se replonger dans sa rivière de jeunesse, quoi. Mmh. On est là, ah, la rivière est là, elle est encore là. Et on y va, retrouver l'écriture, cette écriture que j'avais mise au point pour les Malocènes, qui n'est pas l'écriture du Dictateur et du Hamac ou du Journal d'un corps. C'est une écriture spécifiquement malocénienne et j'avais vraiment envie de m'y replonger.
Alors ça, on va revenir évidemment un peu plus tard à cette écriture malocénienne. Mais le problème, quand on ressuscite comme ça quelque chose, c'est qu'on voit le temps qui a passé.
Est-ce qu'il
a beaucoup changé, lui?
Il a vieilli, Malocène. Ouais. C'est un vieux schnock.
C'est
pour ça que tout le monde le protège.
Plus que vous, Daniel Pennac, ou pas?
Au moins autant. C'est une espèce de frère jumeau. Donc il n'est pas tombé de la dernière pluie. C'est pas de la dernière couvée, quoi. C'est quand même un vieux schnock. Alors avec les vieux schnocks, il faut faire attention parce que nous nourrissons quelquefois en vieillissant des terreurs, paniques. Le monde n'est plus ce qu'il était. On va avoir droit à la 4e guerre mondiale. Enfin, on est un peu tremblant. Et l'écriture, ça vous permet quand même de vous rattraper.
Honnêtement, entre nous deux,
y réfléchir.
Jamais votre éditeur vous a mis la corde au cou en vous disant, Daniel...
Jamais.
Ça serait bien de
faire un
petit
Malocène. Sur les Malocènes que tu fasses un Malocène, jamais.
Non?
Non, jamais.
Par esprit de contradiction, vous ne l'auriez pas fait du coup?
Oui, puis de toute façon, on écrit ce qu'on peut et ce qu'on veut au moment où on le peut. Mais non seulement Gallimard, Antoine en l'occurrence, ne m'a jamais demandé d'écrire quoi que ce soit à la commande, mais il m'a même toujours fichu la paix sur les délais. Et il y a pas mal de mérite parce que je suis très lent. Par exemple, là, il y a un deuxième volume. Bon, je ne peux pas le promettre pour la semaine prochaine, vu que je n'ai écrit que le premier chapitre, mais dans un ou deux ans peut-être.
En tout cas, Malocène, c'est toujours un bouquet mystère, c'est sa marque de fabrique, hein. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à lui mettre les pires horreurs sur le dos, et là en l'occurrence, l'enlèvement d'un homme d'affaires qui s'appelle Georges Lapieta. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il permet le bouc émissaire comme personnage en littérature? Qu'est-ce qu'il permet à l'écrivain que vous êtes?
C'est René Girard qui le permet, voilà. C'est donc un philosophe.
Donc la violence et le sacré, hein, c'est ça,
voilà,
que vous allez citer.
Voilà, la violence et le sacré, le bouc émissaire. Girard a écrit un livre intitulé « Le bouc émissaire ». Où au fond, il faut la faire très très brève parce que c'est quand même une pensée très complexe. Mais en gros, il estime que tout groupe humain se constitue par rejet d'un des siens censé incarner tous les défauts du groupe. Celui qui incarne tous les défauts du groupe est sacrifié, martyrisé, et ensuite par un revirement de conscience, il est divinisé. Et c'est fondement du christianisme. Et j'ai trouvé cette idée tellement... Dès qu'on vit en entreprise, dès qu'on est prof et qu'on a des classes, dès qu'on est en famille, on sait très bien que ce phénomène de bouc émissarisation est réel et que c'est lui qui est le mortier qui solidifie le groupe, la famille, etc. En pointant toujours le doigt sur le beau-frère qui n'aurait pas dû être beau-frère parce que c'est vraiment une tâche, sur l'élève qui, sur le trapenard qu'il faut absolument virer parce qu'il est décidément... Voilà, c'est ça le...
Décidément quoi, finissez quand même votre phrase. Parce que...
qui joue? Alors, nous ne savons pas. Et moi-même, je suis peut-être un romancier qui risque fort d'être bouc émissarisé un jour. Tout le monde peut être bouc émissarisé.
En particulier aujourd'hui.
En particulier. Mais vraiment, non, ça me semble vraiment une constante. Et du coup, je m'étais dit, ce serait intéressant d'imaginer un personnage qui soit bouc émissaire professionnel, explicitement.
Si je vous dis aujourd'hui...
Salarié pour se faire engueuler à la place des autres.
C'est parce que depuis le début de cet entretien, on en parle un petit peu. Votre livre s'inscrit plus que jamais dans l'air du temps. En l'occurrence, Parachute doré, séquestration de chefs d'entreprise, incitation à la désobéissance, secret d'État, j'en passe et des meilleurs. Je me suis demandé, écrire des livres, c'est une façon pour vous de participer au débat citoyen aussi,
mais
voire politique.
On y est. Dès que je vous écoute le matin, quand je me réveille, boum, France Inter, France Culture et France Inter me tombent dans les oreilles. Et j'y suis.
Quand dites-vous tombe dans les oreilles, Daniel Pellegrini?
C'est cool, c'est la rivière,
voilà,
ça me traverse.
Voilà, on préfère.
Ça me traverse, mais ça dépose aussi. Et ce qui est. Est-ce que ça dépose fermente. Et c'est quand même le pouls du quotidien. Et effectivement, ça devient matière à roman.
Mais c'est une façon d'intervenir, c'est la question que je vous pose, la littérature.
Explicitement pour changer le cours des choses, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais rendre compte de la nature de notre présence au monde, oui.
Parce que moi, je vais vous dire, quand on
savoir
vous
ce
lit...
que ça va provoquer, j'en sais rien, mais je suis comme ça.
Quand même, on a une vision assez sombre du présent, hein, qui se dégage quand on vous lit, notamment dans le domaine politique, comme si au sommet de l'État, tout le monde était pourri. Je me trompe?
Mais c'est pas une question de pourriture, mais regardez, par exemple les élections qui s'approchent. On a une extrême droite montante, une droite établie et une gauche qui va nous présenter au minimum 3 candidats. Donc, il y a quelque chose qui, dans l'appareil, fait qu'on est absolument sûr de ne pas être au deuxième tour. C'est tout de même très étrange quand on a l'habitude, le désir, comme moi, de voter à gauche. Je vais voter pour quelqu'un dont je suis à peu près sûr que, compte tenu des jeux d'appareil, il ne sera pas au deuxième tour. Ça fout le moral à zéro, un petit peu. Enfin, heureusement que la suite de France Inter vous enchante. On a Trapenard qui vous présente des gens que vous avez envie de connaître, etc. Mais c'est ça, ce qui nous traverse l'esprit tous les matins.
Qu'est-ce qui pourrait rendre le monde meilleur, en fait? Si ça se trouve, hein. Des mensonges. Les mensonges, Jeanne Moreau, vous êtes sur France Inter avec Daniel Pénac. Vous écoutez Boumang.
Lorsque tu me regardes, je le vois bien, c'est vraiment vrai que ton regard s'en va et passe à travers moi pour se perdre au-delà de moi. Et quand je te demande sans cesse à quoi tu songes, Crois-tu que je ne sens pas que tu me réponds des mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux et bourriffer mes cheveux et dire ce que tu veux, je ne te crois pas. Quand tu m'embrasses, moi je me dis mais oui, c'est pourtant vrai, tant qu'il m'embrasse, moi c'est toujours ça le prix, puisque tout passe et que tout lasse. Et quand tu me souris d'un air distrait, c'est vrai, crois-tu que je ne vois pas que tu penses à tout sauf à moi? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu mentiras, c'est que tu tiens à moi, comme moi je tiens à toi, bien malgré toi. Mais tu ne le sais pas, moi je le sais, c'est pourtant vrai que toi tu es comme ça. Car moi je te connais, et toi tu ne te connais pas. Je ne vis que pour toi, tu ne vis que par toi. Et pourtant toi sans moi, ça ne marcherait pas, tu ne t'en doutes pas. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu me tromperas et que tu reviendras, c'est que tu ne pourras pas te passer de moi. J'aime ta duplicité, hélas, c'est pourtant vrai. Crois-tu que je n'entends pas quand tu m'appelles, moi, de toutes sortes de nouveaux prénoms? Si tu me quittes un jour, ne t'en fais pas, c'est vrai, moi je disparaîtrai, tu n'entendras plus parler de moi. Je regretterai tes mensonges, je regretterai tes mensonges. Continue de mentir, non, ne t'en prive pas, car moi je ne peux pas vivre sans toi, car moi je ne peux pas vivre sans toi.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Puisque l'heure est au mensonge, donnons-nous-y à cœur joie. Mentons, il est sinistre. Sinistre comme une porte de prison, le regard complètement éteint derrière ses binocles de scribouillard. Il a l'air méchant comme une teigne et il fait la gueule, vous ne pouvez pas savoir. Pas une once de joie, de bonne volonté ou d'enthousiasme, on dirait qu'il vient d'en prendre pour perpète à Guantanamo, c'est vous dire. Quant à ses vêtements, ça c'est le pompon. Hein. On attendait un costume de prof, pantalon en velours côtelé, veste écossaise, il est venu à poil, nu comme un ver, c'est l'enfer. Daniel Pennac, invité de Boomerang ce matin pour la sortie événement du premier tome de cette nouvelle série de livres malocéniens, le cas Malocène. Et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, la question, je vous la pose de façon très claire, c'est quoi l'écriture malocénienne?
Ce sont des métaphores, des images,
oui.
Un rythme particulier, des inventions, des à peu près, bref, tout ce que je m'autorise dans Malocène que je ne m'autorise pas ailleurs.
Une langue plus libre?
Beaucoup plus libre que la langue contrainte à dire strictement ce qu'elle a à dire, ouais.
Et plus joueuse, j'ai l'impression,
ouais.
Aussi.
Et puis je suis pas du tout habillé comme vous l'avez dit, vous êtes un menteur effroyable, c'est faux.
Franchement,
il faut venir, venez tous.
Et Boomerang n'est pas filmé, malheureusement pour vous, hein. Et puis franchement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, voir la cantine qui se moque du réfectoire, Daniel Pennac. Et vous avez peut-être retrouvé l'envie de jouer, c'est ce que je me suis demandé.
Oui, on va jouer un petit jeu.
Non, pas tout de suite, un peu plus tard.
Quand vous voulez.
Mais non, mais en se reprenant
avec la Malocène, oui.
Ouais.
Oui.
L'envie de jouer, en fait.
Oui, c'est une écriture, à moi, ludique, en tout cas. C'est vrai que je pleure rarement quand j'écris un Malocène.
Non, honnêtement, Daniel Pennac, écrire avec les années, c'est de plus en plus dur.
C'est-à-dire que c'est des périodes de doute qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'écriture. Ça, c'est le côté dépressif du bonhomme, de l'auteur. À quoi bon ? Mais ça, c'est l'histoire de ma vie du premier jusqu'au dernier jour. Je crois que le dernier jour, je me dirais « Oh, à quoi bon mourir ?»
Moi, j'ai envie quand même que vous nous fassiez entendre ce texte, que vous nous en fassiez la lecture comme vous le faisiez à vos élèves dans le temps. Vous voulez bien un court paragraphe ? J'ai choisi une phrase, en fait, un paragraphe du début du cas Malocène. On vous écoute.
Une longue phrase. Par les temps qui courent, moi, Benjamin Malocène, je vous mets au défi, qui que vous soyez, où que vous vous cachiez, quel que soit votre degré d'indifférence aux choses de ce monde, d'ignorer la dernière nouvelle, celle qui vient de sortir, la bien bonne, qui va faire causer la France et grésiller les réseaux sociaux. Choisissez le cœur de l'été. Dispersez votre progéniture. Laissez votre compagne, Julie, la journaliste à la crinière de Lyon et au sein de légende, couvrir les sujets de son choix. Refilez votre portable à un amateur de baltrap. Retirez-vous à mille lieues de toute ville, ici, sur le toit du Vercors, à Fondurle, 2000 mètres au-dessus de tout. Choisissez un ami muet, Robert par exemple, il n'y a pas mieux pour la discrétion. Partez avec lui faire votre cueillette annuelle de myrtilles, peignez les buissons en silence, remplissez vos seaux en évitant de penser, même de songer. Bref, œuvrez avec le dernier soin aux conditions de votre sérénité, et bien même là, au cœur de nulle part, parfaitement dissous en vous-même, vous n'empêcherez pas la dernière nouvelle de vous éclater aux oreilles comme un pétard de 14 juillet.
J'ai l'impression, Daniel Pénac, que votre Malocène, il aspire à se mettre un peu à l'écart du monde, des actualités, des nouvelles. C'est aussi une tentation chez vous.
Oui, mais tout vous y replonge. Alors, c'est une tentation. Par exemple, le Vercors. Le Vercors, j'y vais depuis 30 ans. Il faut toujours que j'en revienne. Et je me demande toujours pourquoi. Parce que un bouquin va sortir, parce qu'il faut défendre une association, parce que la vie vous rappelle. Et c'est vrai que le courage, c'est d'affronter l'homme.
Ces gens qui traversent, on doit être là pour les tirer de l'eau. Parce que si on n'est pas là, ben forcément, ils vont mourir. Ça, c'est un devoir humain.
Do not move. Stay where you are.
Ok. We can help you.
Comme à tous mes invités, Daniel Pénac, je vous ai donné carte blanche pour terminer cette émission et vous avez choisi une association, SOS Méditerranée. Vous avez écrit un texte, plutôt un dialogue, si ça se trouve un jeu qu'on va faire maintenant, c'est ça?
Oui, je voulais vous poser quelques petites questions. Connaissez-vous Francis Valla?
Non.
Non. Valeria Calandra?
Non plus.
Non plus. Johan Mouchery?
Non.
Annie Montes Meyer?
Non.
Sophie Beau?
Non.
Très bien. Bravo, félicitations, moi non plus. Je ne les connais pas, personnellement, mais ce sont les responsables, parmi les 150 personnes qui sont responsables de cette association, SOS Méditerranée, l'équipage de l'Aquarius, leur bateau, qui ont sauvé à ce jour 7487 personnes dans la Méditerranée, à la frontière des eaux libyennes, et qui n'ont pas un rond. Personne ne les aide, 1% de subventions institutionnelles et 99% de subventions privées, c'est-à-dire nous. Sachant qu'un jour de bateau coûte 11 000 euros par jour, un mois 330 000 euros, il faut absolument que nous les aidions tous. SOS Méditerranée donc. Hein, et leur boîte postale est la boîte postale 75-00-62, Marseille, 13 382.
Et le site internet http://sosméditerranée.fr. Merci beaucoup Daniel Pénac d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que le premier tome du Camalocène est publié aux éditions Gallimard. Ils m'ont menti, c'est vif, plein d'esprit, c'est mené tambour battant. Merci. Tout de suite, celle qui sonne les cloches des médias chaque matin sur cette chaîne, Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça.
I'll be right.